Studio Tamani, voici nos informations en français.
Vous écoutez Studio Tamani, bon réveil matinal sous cette pluie. Voici le sommaire de ce journal. 7 ans après sa signature, l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation piétine toujours. Si pour le gouvernement, des avancées notoires ont été réalisées dans sa mise en œuvre, les groupes armés appellent à plus d'engagement. L'examen du certificat d'aptitude professionnelle tertiaire et industrie a démarré ce lundi à Bamako et à l'intérieur du pays. Ils sont 23 434 inscrits cette année. Aucun incident n'a été signalé au cours de cette première journée. Le bilan officiel des attaques simultanées dans le cercle de Bankass est de 132 morts. Dans un communiqué, le gouvernement rassure que toutes les dispositions seront prises pour traduire les auteurs de cette tuerie devant la justice. Le développement de ce titre dans un instant avec Assetou Kanté, Mamadi Keita assure la technique. Bonjour et bienvenue à ce journal. 7 ans après la signature de l'accord d'Alger, sa mise en œuvre reste difficile. Si les groupes armés dénoncent un manque de volonté du gouvernement du côté de la transition, on se réjouit des avancées notoires tout en reconnaissant que les défis restent énormes. Les détails avec Aboubakrin Ag Mohamedine Yattara.
Cela fait 7 ans, ce 20 juin, que l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali a été signé entre le gouvernement et les groupes armés. De sa signature à ce jour, les différentes parties reconnaissent que la mise en œuvre du document est régulièrement confrontée à des obstacles. Dès sa prise de fonction, le chef du gouvernement a évoqué une mise en œuvre intelligente de cet accord issu du processus d'Alger. Du côté du gouvernement, on estime également que la mise en œuvre de l'accord de sa signature à nos jours a connu des avancées notoires, notamment sur le plan politique, sécuritaire, du développement, de la justice et de la réconciliation. Malgré ces satisfaits du gouvernement, un manque de confiance entre les partis signataires est visible. Une situation qui s'explique par les blocages à certains points du processus comme celui du DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion. À cela s'ajoute la tenue d'une réunion de haut niveau qui s'est fait attendre entre le gouvernement et les partis signataires depuis janvier dernier. Il est attendu de cette rencontre le démarrage de la réintégration socio-économique des catégories particulières des ex-combattants et des femmes associées aux groupes armés désignés dans les 5 régions du Nord. Aussi, cette réunion devrait aboutir à un consensus sur les réformes politiques et institutionnelles en suspens et lancer les 16 projets approuvés au titre du Fonds pour le développement durable.
Les responsables des groupes armés signataires de l'accord d'Alger sont unanimes là-dessus. Il y a eu des avancées notoires dans l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger. Cependant, si pour la CMA, il est temps de passer aux réformes profondes pour relancer la mise en œuvre de l'accord, la plateforme de son côté souhaite la tenue de la rencontre de haut niveau pour lever les blocages. Plus de détails avec Diara Faskoé et Mamadou Sissoko.
Pour Ataye Ag Mohamed, porte-parole de la CMA, malgré les blocages, il y a eu des avancées notoires dans l'application de l'accord de la paix et de la réconciliation issu du processus d'Alger.
La principale avancée qu'on a aujourd'hui, c'est l'arrêt des hostilités entre les parties signataires. Les deuxièmes, ce sont des actions intermédiaires, des actions intérimaires, provisoires, comme par exemple les BATFAR qui ont été mises en place dans les régions de Tombouctou, Bidal, Gao, Benaka, pour rapidement aller aux réformes qui permettent de faire des élections et mettre en place des autorités ordinaires.
Ces mêmes avancées sont notées par les responsables de la plateforme. Cependant, Bega Ag Ahamouden, membre de ce groupement armé, déplore des freins à l'application effective de cet accord.
Ça fait presque 7 à 8 mois maintenant, il n'y a pas eu des CSA. Les CSA, c'est la tête de la machine. Donc, si c'est bloqué depuis 8 mois, 7 mois, donc ça veut dire que rien ne marche, tout est bloqué. Et depuis lors, on attend la fameuse réunion du niveau décisionnel qui devrait un peu parer à ces différents blocages, mais jusqu'à présent, n'a pas eu lieu.
Tous les groupes armés demandent aux autorités plus d'engagement pour maintenir les acquis, notamment le processus de démobilisation, de désarmement et de réinsertion d'EDR.
8h passées de 4 minutes, vous pouvez réagir à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. L'insécurité prend de l'ampleur dans la région de Bandiagara, plus d'une centaine de morts et d'importants dégâts matériels. C'est le bilan provisoire d'une série d'attaques perpétrées ce week-end dans les villages de Djalassagou, Djamnoueli et Dessagou dans le cercle de Bankass. De sources locales, ces différentes localités sont en train de se vider de leur population. Moussa Malé Sissoko.
Venus sur des motos, les hommes armés non identifiés ont attaqué les localités de Dialassagou et Deguessagou dans la nuit du samedi au dimanche 19 juin 2022. Des sources locales, les assaillants se sont livrés à des massacres des populations civiles avant de mettre le feu aux habitations. Ils ont incendié les boutiques et greniers se trouvant sur leur passage, rapportent les mêmes sources. Selon des témoignages, plusieurs personnes, notamment le chef du village de Dialassagou, ont été enlevées par les assaillants. Ils ont également emporter une quantité importante de vivres, du bétail et des motos à Djanweli. Le bilan provisoire des victimes varie suivant les témoignages. Certains font état de 130 personnes tuées, d'autres en dénombrent plus. Dans un communiqué, le gouvernement a annoncé un bilan cumulé de 132 civils froidement tués par les combattants de la Katiba de Massina de Amadou Koufa. Selon le communiqué, plusieurs parmi les auteurs de ces massacres ont été formellement identifiés. Le gouvernement condamne avec la dernière irrigation guerre, ses attaques et exactions. Il rassure que toutes les dispositions seront prises pour rechercher et traduire les auteurs devant la justice. De sources locales, l'armée malienne est déjà sur place et continue de ratisser la zone. Ces événements ont poussé plusieurs familles à fuir les lieux pour se réfugier dans des localités plus sûres.
Et suite à cette attaque meurtrière, un deuil national de 3 jours est décrété sur toute l'étendue du territoire national. Les drapeaux seront en berne sur tous les bâtiments et édifices publics durant toute la durée du deuil. 100 millions de personnes sont en déplacement forcé dans le monde, parmi lesquelles 25 millions sont des réfugiés. Le Mali compte plus de 370 000 déplacés internes et plus de 170 000 réfugiés dans les pays voisins, notamment la Mauritanie, le Niger et le Burkina Faso. Il accueille aujourd'hui 70 000 réfugiés et demandeurs d'asile de toutes nationalités. Ces informations ont été données hier par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés ACR lors de la célébration de la Journée mondiale des réfugiés. Plus de détails avec Lalet Tangara.
Pour les ACR, le thème retenu cette année pour célébrer cette journée, chacun, partout, tout le temps, toute personne a droit à la sécurité. Appel à la solidarité avec toutes les personnes obligées de fuir leur localité à cause de l'insécurité. Mohamed Askia Touré, représentant du ACR au Mali.
Aujourd'hui, 20 juin, nous commémorons la Journée mondiale des réfugiés. Avec beaucoup d'espoir pour saluer le courage et la ténacité des personnes contraintes de fuir à travers le monde leur pays à cause de l'insécurité générée par des conflits et des persécutions liées à leur origine, leur race.
À l'occasion de leur journée, les réfugiés ont adressé des doléances au gouvernement du Mali, notamment l'attribution des logements sociaux aux réfugiés. Patrice Vouama, président de l'Union des réfugiés du Mali.
Nous sollicitons pour les réfugiés du Mali, une sécurité alimentaire. Surtout la prise en compte des réfugiés pendant le mois de solidarité et des autres actions et initiatives du gouvernement. Nous demandons également une sécurité d'habitation, donc l'octroi des logements sociaux aux réfugiés qui remplissent les mêmes conditions que nos parents maliens.
Cette cérémonie a été une occasion pour les réfugiés à montrer leur savoir-faire aux hôtes de l'événement. Ils ont animé des sketchs et diverses autres prestations sur leur situation. Aussi, deux Mauritaniens ont reçu la nationalité malienne.
Je vous l'annonce dans les titres. C'est parti depuis hier pour l'examen du certificat d'aptitude professionnelle tertiaire et industrie à Bamako et à l'intérieur du pays. Cette année, ils sont 23 434 inscrits qui prennent part à cette épreuve. Voyons avec notre reporter Khalifa Goïta comment était l'ambiance hier dans certains centres d'examen à Bamako.
À la rive droite de Bamako, précisément dans l'un des centres d'examen du lycée Kankou Moussa, c'est à 8 heures que les épreuves ont démarré. Selon les surveillants, les candidats sont soumis cette année à des règles strictes pour éviter toute fraude. Modibo Keïta, président du centre Kankou Moussa.
Les examens ont commencé ce matin à 8 heures avec la comptabilité usuelle. Mais déjà à l'entrée, nous avons procédé à la fouille. Des élèves, pas de sac, pas de téléphone. C'est comme ça qu'ils ont regagné la salle. Très strict. Bon, c'est pour que les élèves ne fraude pas. On veut avoir un état digne de ce nom, avec des enfants dignes de ce nom et des citoyens bien instruits. Je suis avec 880 candidats. Il y a des absents.
Même constat à la rive gauche. Nous sommes au lycée Ba Aminata Diallo, un autre centre d'examen. Les responsables du centre estiment que tout se passe bien. Madame Maïsata Bengali, vice-présidente du centre.
On a commencé les épreuves à 8 heures. 974 candidats répartis entre 33 salles. On a instruit aux surveillants de bien surveiller les épreuves pour quand même ne pas favoriser la fraude. Le contrôle était strict. On n'a pas eu de problème de cas de fraude. Mais on a quand même enregistré quelques absences des candidats.
Pour cette première journée, les avis des candidats divergent sur les épreuves. Néanmoins, tous espèrent à un bon résultat.
Ça a été difficile. Il y a certaines leçons qui sont venues qu'on n'a pas vues dans la classe. Notre idée, c'est avoir l'examen. Quoi. De toute façon, on va bosser quand même.
Mais ouais, le sujet était passable. On souhaite que le reste soit facile pour qu'on puisse avoir un bon résultat.
L'examen du certificat d'aptitude professionnelle se déroule du lundi 20 au jeudi 23 juin 2022 à travers le pays.
Sur un tout autre sujet, les communes sont très souvent confrontées au non-paiement des taxes de développement régional et local et aux problèmes d'insalubrité. À Saint, un quartier dénommé Dalin fait exception. Les habitants ont décidé de créer un groupement d'intérêt économique GIE-JKK composé d'hommes et de femmes pour faire face à l'insalubrité du quartier, le curage des caniveaux et tout autre besoin. Et les TDRL du quartier sont payés chaque année grâce à leur étang de pisciculture. Les détails avec notre envoyé Mohamed Ali Agal. L'aide de retour descend.
À Dalin, plus de 40 femmes travaillent avec des hommes dans l'étang de pisciculture. L'objectif, selon eux, est de faire face aux besoins du quartier. Madame Traoré Assa Bemba est la présidente des femmes de Dalin.
Avec nos bénéfices, nos hommes parviennent à payer les impôts du quartier. Les familles qui n'ont pas les moyens sont aussi approvisionnées en céréales grâce à notre activité, notamment les veuves. Dans ce groupement, il y a l'entraide.
Les collectivités de la ville de Saint saluent l'initiative de la coopérative de Dalin. Selon Sidi Traoré, le secrétaire général de la mairie de Saint, c'est un exemple à imiter partout au Mali.
Pour prendre l'exemple sur Dalin, ça allait être une très bonne chose pour la commune urbaine de Saint. Vu que la commune, très généralement, les communes au Mali sont confrontées au recrutement de la TDRL. Donc aussi, un GIE a pu avoir l'initiative de mettre en place une telle structure pour payer la TDRL, c'est que salutaire pour la collectivité. C'est sûr et certain que les autres collectivités peuvent s'inspirer de cet aspect de la chose.
Pour le secrétaire général de la mairie de Saint, tout bon développement commence par la prise de conscience de la population. Toutefois, il demande aux geôliers JKK de rester mobilisés pour leurs objectifs. Mohamed Ali Agalaïda, de retour de Saint pour Studio Tamani.
Parlons à présent de sport football. Le championnat national de Ligue 1 du Mali, la 30e journée s'est déroulée ce week-end. Djoliba Athletic Club est en tête avec 55 points, suivi de l'AS Bakary Diang 49 points. L'US Kita occupe la troisième place avec 47 points. Par ailleurs, les huitièmes de finale de la Coupe du Mali féminine se sont également jouées cette semaine. Le résumé avec Omar Weygalo.
Le samedi dernier, Djoliba, le club leader du championnat national, s'est imposé face aux 11 créateurs de Niarela sur un score de 2 buts à 1. CS Dougouloula a battu AS Police 3 buts à 2. AS Real de Bamako a dominé l'Union sportive du cercle de Kita par 1 but à 0. Les Black Stars ont gagné face à l'AS Douane par les mêmes scores. Ce soir, Assom affronte AS Bakary Diang de Baraouli. Par ailleurs, la Coupe du Mali féminine de football, les 8e de finale se sont joués la semaine dernière. AS Mandé a écrasé l'Afia Club de Tombouctou par 8 buts à 0. Asie FSA s'est incliné face à Santoro FC sur un score de 16 buts à 1. FC Tamba a été battu par AS Real 12 buts à 1. Les Super Lions de Bamako se sont imposés face aux Tigres de Kayi 7 buts à 0. Les Amazones de la Commune 5 ont battu FC Badenya de Mopti par les mêmes scores. Les Tigres de Bougouni ont fait un match nul avec l'AS Momo de Sikasso, un but partout.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Actualité régionale, plus de 200 jeunes munis de houes, de pioches et de charrettes ont entamé ce week-end les travaux de réhabilitation des routes d'Oussoubi-Djandjan, cercle de Bafoulabé. L'opération visait à faciliter l'évacuation des produits agricoles et des articles de commerce en cette période hivernale. Ces jeunes volontaires ont bouché les nids de poules et taillé les branches d'arbres le long de la route. Les travaux se poursuivront tous les week-ends, ont-ils promis. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez écouter toutes ces informations sur notre site web au www.sujetamani.org ou en appelant gratuitement sur Viamo au 37 321. Restez à notre écoute. Dans quelques minutes, ce sera la version Bambara de cette édition, une présentation de Mariam Koulibaly. Mais avant tout de suite, la question A.
Studio Tamani.